La radio a en un siècle d'histoire eu un rôle capital dans de nombreux événements. On l'a vu ce matin dans l'émission qui parlait des débuts du post-colonial en 1931 et du rôle de la radio dans la Seconde Guerre mondiale. La radio est le média qui fut utilisé par les pouvoirs en place ou par ceux qui voulaient le prendre dans de nombreux pays, notamment ceux du continent africain. Pendant longtemps, un coup d'État dans un pays africain signifiait la prise du palais présidentiel et simultanément la prise de la radio nationale pour y lire un premier communiqué de la prise du pouvoir et de la réussite du coup d'État. Une radio eut un rôle capital dans le dernier génocide du XXe siècle.
En 1993 à Kigali, une toute nouvelle radio musicale fait son apparition dans le paysage audiovisuel. C'est la RTLM, la radio-télévision libre des Mille Collines. Cette radio, si séduisante par sa modernité et sa liberté de ton, était en réalité la radio de propagande gouvernementale au service du génocide des Tutsis du Rwanda. Sur ses ondes, le média a diffusé la haine, timidement d'abord, puis de façon totalement assumée. Il a par exemple divulgué le nom des personnes à abattre, offert des primes en échange de cadavres et exhorté les miliciens à massacrer. Enregistrement de la RTLM en 1994.
Inyenzi sont les cafards et nomment les Tutsis.
Une fois de plus aux forces armées rwandaises.
Alors il faut donc à la population redoubler de vigilance car il y a des Inyenzi qui sont habillés en civil et qui passent à travers la population sans être inquiétés. Chaque fois que vous tombez sur une présence suspecte, demandez les documents importants, les cartes d'identité, etc. pour vous rassurer car il se pourrait qu'il y a des Inyenzi qui se promènent parmi la population civile.
Nous félicitons donc nos forces armées pour l'effort qu'elles continuent à fournir. Nous félicitons également toutes les personnes qui se trouvent aux barrières, tous les médecins, tous les infirmiers, toutes les personnes qui encadrent, y compris les épouses qui supportent par moments les mauvaises humeurs de leurs maris, qui ont travaillé toute la journée à la sécurité du pays.
La voix du peuple, c'est la radio qui vous dit la vérité, c'est la vérité même des secrets.
Extrait de la pièce de théâtre du réalisateur Milo représenté en 2011. Une reconstitution de la radio libre des Mille Collines.
Il y a à peine quelques minutes, je viens d'apprendre que 4 Ingotani ont échappé à la vigilance de nos milices. Et c'est une information qui vient de nous être donnée par le jeune domestique de chez Sinchoboye Bernard, qui est toujours en ligne.
Vous comprendrez alors que la cruauté des Inyenzi est irréversible. La cruauté des Inyenzi ne peut être guérie que par leur totale extermination, leur mise à mort à tous, leur totale extinction.
Merci Valérie, bonsoir à vous tous chers auditeurs de la RTLM. Nous nous retrouvons pour les informations chaudes du jour, les informations de guerre et ses commentaires. Alors côté Boutaré, bien comme l'avait prédit Cantano, eh bien le FPR, les Inyenzi du FPR, eh bien cherchent à attaquer la ville à partir de la commune de Mbazi, mais il est repoussé avec le concours de la population civile qui s'est mobilisée et que nous saluons.
Que nous saluons beaucoup.
Côté Nyenza, eh bien, de graves combats ont également eu lieu hier. Les Inyenzi Nkotani ont eu 7 tués dans leur rang. Du matériel divers a été saisi, dont un mortier 60 et ses munitions. Alors côté Rulindo, c'est 31 tués du côté des Inyenzi. Alors là, c'est la palme. De nombreux fusils ont également été saisis, dont 19 Karachnikov, une mitrailleuse lourde, et 7 munitions hier également, comme déjà diffusé ce matin sur Radio Rwanda. Eh bien, les Inyenzi ont connu à Kivuruga, eh bien, de graves malheurs. de graves malheurs. Alors par contre, sur Gitarama, eh bien, les larmes et le sang coulent car les Inyenzi ont lancé un obus dans un quartier civil et tué de nombreuses femmes et de nombreux enfants. Eh bien, c'est vraiment dommage, monsieur Bernard Kouchner, eh bien, que vous ne soyez plus présent pour constater comment, en réalité,
c'est un juif.
Ce sont bien les Inyenzi qui, depuis le début, lancent des bombes dans des endroits qui n'ont aucune relation avec des activités militaires.
Egetarama, Inyenzi, Zarache, Ikompora, Rifata, Imbra, Enchato.
I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman, you're cute. How you doing, you know me? Original joke, buddy. You want me part, woman, you're cute. How you doing, you know me?
Original joke, buddy.
You want me part, woman, you're cute. Mais, Yontani, croyez-vous vraiment qu'il faille couper les vivres à une population mais de plus de 200 000 personnes pour s'emparer de la ville?
C'est la stratégie.
Et croyez-vous vraiment payante la stratégie d'harceler les gens jusqu'au désespoir?
C'est la stratégie. S'il te plaît, Valérie, tais-toi. Il faut rappeler à nos amis... Non, parce que c'est le renversement de la logique de la guerre. Et il faut rappeler à nos auditeurs...
J'en venais.
Le résultat de l'enquête de M. René Denis Segui, ici au Rwanda. Violation, enfin, le rapport là, sur les violations des droits de l'homme qui a été sorti en juin, Monsieur Denis Segui, chers auditeurs, qui prétend dans son rapport, qui prétend que les tueries ont été préparées, que les tueries ont été planifiées, et aussi d'ailleurs par la RTLM, et qui par contre, évidemment, ne veut rien savoir des préparatifs du FPR. Voilà quand même très concrètement un exemple du renversement total de la logique de la guerre acceptée par l'ONU.
Non, mais imaginez un peu, cet individu prétend, avant même que notre président ne soit tué, il prétend que les gens, que la population même, avait commencé à parler. Auditeurs, en ce moment, vous écoutez une chanson intitulée Nanga Abahutu, je déteste tous les Hutus, et sûrement que vous la connaissez, puisqu'en vérité, tous les malheurs qui viennent de s'abattre sur le Rwanda, on pourrait citer le nommé Twahiramungu Faustin.
Oui, alias Rukokoma.
Le nommé Kanyarengu.
Le nommé Pasteur Bizimungu, mais surtout toutes ces putes Hutus qui couchent avec les Tutsis.
Oui, tous ces Hutus modérés qui ont prêté leurs âmes aux Tutsis, ces complices du FPR, c'est eux avant tout qui ont coulé ce pays. C'est eux qui l'ont plongé dans ces insoutenables malheurs. Mais l'arrogance des Ngontani. La RTLM a prouvé plus de 1000 fois qu'il ne tenait que grâce aux énormes sommes d'argent des actionnaires étrangers. Et en vérité, il tenait grâce au président Habyarimana. Hein ? Voilà. Qui le ressuscite donc ? Mais oui, puisqu'il était une grande protection pour eux. Mais ils ne s'en rendaient même pas compte. Et ils ont choisi de le tuer. Alors que le malheur les frappe, oui. Que le malheur les frappe, comme il est dit dans la Bible. Malheur à eux, malheur à eux, malheur à eux.
La radio peut être utilisée pour le meilleur comme pour le pire. Nous venons d'en entendre le pire via des extraits des vociférations des animateurs de la radio libre des Mille Collines à Kigali au Rwanda pendant le génocide de 1994. Nous sommes en ligne avec Madeleine Mukamabano, journaliste franco-rwandaise, bien connue en France pour ses émissions à France Culture et RFI. Madeleine, peux-tu nous rappeler comment est née RTLM, la radio-télévision des Mille Collines? Quels en étaient les initiateurs? Et quel a été son rôle pendant le génocide?
Francis, bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. La radio-télévision des Mille Collines, qui a fini par s'appeler tout simplement Radio des Mille Collines, a vu le jour, l'idée est née en 1992. Il faut se rappeler, je crois, du contexte politique. En 1990, des réfugiés Tutsi qui étaient réfugiés dans tous les pays voisins et certains en Europe depuis 1990. En octobre 1990, après avoir essayé de négocier leur retour au pays pendant plusieurs années, ça n'a pas abouti. Le gouvernement de l'époque disait que le pays était trop petit pour accueillir les Rwandais venus de l'extérieur et même la communauté économique européenne l'Union européenne de l'époque trouvait que le pays était trop petit. Sauf que ces réfugiés-là, là où ils étaient, il commençait à y avoir des turbulences de la démocratie balbutiante dans tous les pays africains et que les réfugiés, un peu partout, étaient pris comme cible, soit par le pouvoir, soit par les oppositions. Et donc, les réfugiés se sont organisés et ont attaqué le nord du Rwanda. Ils ont d'ailleurs créé aussi une radio pour mobiliser, une radio qui était, alors dont le concept c'était parler de la paix, c'était parler de l'unité nationale, c'était rappeler que le Rwanda était une nation avec la même langue, la même culture, le même territoire pour toutes les ethnies, et que c'était le moment de retrouver cette unité perdue depuis 1959. Et la réponse du gouvernement de l'époque, qui était un gouvernement Hutu, en 1992, a été de rassembler plutôt les Hutus du Rwanda. Les Hutus qui étaient écartés du pouvoir, le gouvernement a enfin cédé et accepté la création des partis politiques, mais qui étaient des partis politiques Hutus. Et du coup, ça posait un problème. Parce que dans le Rwanda de l'époque, il n'y avait pas de télévision. La télévision n'est apparue qu'après le génocide. Il n'y avait pas de télévision. Et le paysage médiatique était très, très pauvre. Il n'y avait qu'en effet deux médias importants, plutôt deux médias d'ailleurs. Il y avait dans la presse écrite Kinyamateka, qui était un journal de l'évêché, donc du clergé rwandais, qui était très important, qui était lu par tous ceux qui savaient lire, et la radio nationale, qui était entre les mains du gouvernement. Donc, en 1992, avec l'acceptation de la création des partis politiques de l'opposition, le gouvernement n'avait plus la mainmise sur la radio nationale. Et l'Église catholique du Rwanda, qui était très puissante, à l'époque, hésitait encore, c'est pas à prendre parti, mais enfin, elle était prudente. On ne pouvait pas y diffuser des messages de haine dans le journal du clergé. C'est à ce moment-là que les ultras du régime, les Hutus extrémistes du régime ont eu l'idée de créer un organe de propagande qui n'existait pas. Et ça va être la radio de télévision des Mille Collines qui va être créée en 1993. Et il y avait eu déjà un incident. En 1992, le directeur de la radio nationale avait permis aux journalistes de passer un message de haine contre les Tutsis qui avait abouti au massacre d'un grand nombre de Tutsis dans l'est du Rwanda. Il a été démis de ses fonctions. Et c'est ce directeur-là, Ferdinand Nahimana, qui va être pris comme directeur de la nouvelle radio indépendante, Radio Libre, la radio-télévision des Mille Collines. C'est un historien, c'est un ancien de la Sorbonne. Je me souviens d'ailleurs, moi, quand je suis arrivée à Kigali au lendemain du génocide avec l'équipe de Jean-Marie Cavada à la Marche du siècle, j'étais avec le journaliste Hervé Brusini. Il y avait encore dans son bureau Mein Kampf. C'était quelqu'un qui était absolument extrémiste, et en plus avec un recul historique, avec des acquis historiques, il s'était beaucoup imprégné. Je disais d'ailleurs qu'on aurait dit qu'il avait été infusé dans l'idéologie nazie. Et c'est lui qui devient le directeur de cette radio-là, qui va être la radio de la propagande Hutu, qui va d'abord émettre un tout petit peu sur la région de la capitale Kigali et puis sur l'ensemble du Rwanda, jusqu'au nord du Burundi et même un tout petit peu à l'est du Zaïre de l'époque qui est actuellement la République démocratique du Congo. Mais si on peut parler du financement, pour créer cette radio qui était sur le modèle des radios libres hein, qui venaient de se créer en France et un peu partout, il va y avoir un consortium de financiers, une cinquantaine d'actionnaires, mais le chef financier, ça va être un homme d'affaires appelé Félicien Kabouga, qui a été arrêté en France, je crois que vous avez pu voir ça dans tous les journaux, il a été arrêté en octobre 2020, après 25 ans de cavale. où les États-Unis avaient promis 5 millions de dollars pour celui qui l'arrêterait. Enfin, il y avait, sa tête était mise à prix et pendant 25 ans, il s'est promené, il a bénéficié de tas de soutien un peu partout et c'est seulement en 2020 qu'il a été arrêté. Et c'était le principal financier.
Et quel en était le financement ?
Ah, le budget était conséquent parce qu'ils avaient des moyens par rapport même au journal des curés, surtout par rapport à la radio nationale. Et l'objectif de cette radio, ça va être avant tout de diffuser l'idéologie Hutu, de mobiliser déjà. À ce moment-là, on ne parle pas du génocide, sauf qu'il était déjà préparé. Mais de commencer à préparer les esprits, à mobiliser les populations, à contrer les messages d'unité de la radio du Front patriotique rwandais, à contrer ce qu'ils appelaient la mollesse de la radio nationale rwandaise. Et très vite, la radio-télévision des Mille Collines va devenir le média le plus puissant au Rwanda, écrasant la radio nationale rwandaise. Et puis, il faut se rappeler, enfin, nous, on a du mal aujourd'hui. On ferme les yeux, on essaie de se dire, mais il n'y avait pas de télévision, il n'y avait aucune image. La radio nationale rwandaise, comme toutes les radios nationales en Afrique française, vous les connaissez, le président s'est déplacé dans telle commune, les discours qui n'en finissent pas du président, du ministre, etc. Et là, tout d'un coup, il y a une radio qui arrive avec un nouveau concept. C'est un concept qui cible la jeunesse. C'est un concept avec un ton tellement convivial, tellement taquin, qui parle comme tout le monde. Comme les bad boys des villes, qui tutoient. On sort de la solennité de la radio nationale, on sort de la solennité et le côté suranné du journal du clergé. Il faut voir aussi que même la radio nationale était complètement imprégnée de la culture du clergé, parce que le Rwanda était un pays catholique, un peu modelé quand même, hein, même dans le langage des gens. Ils ne pouvaient rien dire sans faire appel aux dieux, des choses comme ça. Tout ce qui concernait le sexe, on ne pouvait pas le prononcer. Il fallait faire des grands détours pour comprendre que c'est de ça qu'on parle, mais on ne pouvait même pas en parler, tout simplement. Et donc, tout d'un coup, il y a une radio iconoclaste qui parle comme les garçons des quartiers ou les filles de quartier quand elles sont entre elles et qui a beaucoup d'humour. Les émissions étaient entrecoupées de sketchs d'humour, entrecoupées de musique zaïroise très prisée, très dansante, très entraînante et que beaucoup de gens ne pouvaient pas s'offrir. Beaucoup de gens n'avaient pas de radio à ondes courtes. Et moi, je me souviendrai toujours, à l'époque avant ça, mais ça n'avait pas changé, où par exemple, pour écouter RFI, enfin, qui était le RTF à l'époque, ou la Deutsche Welle, ou la radio néerlandaise, qui émettait en ondes courtes, on voyait des gens avec les radios fixées dans les arbres, parce que c'était des radios à ondes courtes, mais des radios de très mauvaise qualité, on n'arrivait pas à capter. Et là, il y a une radio que tout le monde peut capter partout, dans sa cuisine, dans la rue. Les gens se promenaient comme les rappeurs ici, là, avec les radios sur l'épaule, en train d'écouter ça, avec cette musique, et quand même s'accompagner des diatribes contre les Tutsis, avec un côté complètement paranoïaque, des complots, des Tutsis contre les Hutus. Il y avait la musique d'un compositeur, je me souviendrai toujours de lui, un certain Simon Bikindi, dont les textes étaient incroyables, dans un très beau Kinyarwanda, mais très drôle, et qui était vraiment une incitation directe à la haine de Tutsis et à la mort des Tutsis, alors qu'on n'était pas encore dans le génocide. Les Tutsis l'écoutaient. Les Tutsis l'écoutaient parfois tétanisé, mais il écoutait aussi. Moi, j'ai interviewé des rescapés du génocide. Alors, il écoutait en deux temps. Avant le génocide, ils m'ont dit on l'écoutait d'abord parce qu'il y avait de la très bonne musique, qu'on ne pouvait pas se payer les cassettes. Et là, il y avait de la très bonne musique, enfin, une radio qui passait de la très bonne musique. Et on dansait dessus. Et on voyait très bien que c'était un appel à la haine, mais on disait, hop, ils perdent leur temps. Il y a les troupes des Nations Unies qui sont là. ils ne pourront pas tuer les gens. Parce que c'est ça aussi le problème qui s'est posé au Rwanda. C'est le leurre de la présence des troupes des Nations Unies qui a fait croire aux gens qu'ils étaient en sécurité jusqu'à ce que le génocide commence. Ne connaissant pas les règles des Nations Unies, que ces troupes étaient sous tel ou tel mandat, un mandat qui ne leur permettait pas d'intervenir directement, de prendre les armes contre ceux qui tuaient les Tutsis, les gens étaient extrêmement confiants. En tout cas, la majorité. Il y avait des gens beaucoup plus informés, beaucoup plus attentifs, pour qui ces messages signifiaient quelque chose. Je me souviens d'un militant des droits de l'homme, qui était d'ailleurs journaliste aussi, qui m'avait écrit une lettre qui me disait « Cette radio-là, elle va nous emporter. » Lui, il a été emporté par le génocide en 1994. Il y en avait qui avaient déjà compris ce qui se préparait.
La plus grande partie de la population Tutsi n'imaginait pas le pire.
Non, pas du tout. Pas du tout. Ils aimaient la musique que ça diffusait. Ils étaient horrifiés par les attaques contre les Tutsis. Mais c'est tout ce qu'il y avait. Et d'autres disaient, on écoute parce que c'est une source d'information. Pour savoir ce qu'ils nous préparent, les plus instruits, ce qui est analysé, disaient, si on écoute attentivement, on décèle ce qui nous attend.
Après l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, après le 6 avril 1994, déclenchant le génocide, et pendant le génocide, quelle a été l'action de la radio ?
Alors, juste avant le génocide, la radio-télévision d'Émile Colline a annoncé qu'il y aura, je traduis en kinyarwanda, qu'il y aura une petite chose qui va se passer le 4 ou le 5, une petite chose très très importante, et que ça va se prolonger pendant les jours qui vont suivre. Alors là, tout le monde s'arrachait les cheveux, c'est quoi la petite chose qui va se passer? Et dans la nuit du 6, c'était l'attentat contre l'avion du président Habyarimana et le déclenchement dans la nuit même du génocide. À partir de ce moment-là, et ce n'est pas seulement moi qui le dis, tous les rapports et les jugements de la Cour pénale internationale pour le Rwanda, tous les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, la radio-télévision d'Émile Colline a été une radio de liaison entre des différents groupes de miliciens qui tuaient, entre des miliciens et les militaires du régime qui tuaient, et la radio qui incitait à tuer, qui poussait, qui donnait de l'énergie, qui encourageait, qui indiquait, par exemple, ils indiquaient à tel endroit, il y a encore des Tutsis qui se cachent. Voilà. Tel groupe de miliciens est en minorité, ils ont besoin de renforts, il y a trop de gens à tuer. Les militaires demandent des renforts à tel endroit, des renforts de miliciens. Ou les miliciens demandent des renforts de militaires à tel endroit. Et c'était « nous travaillons pour la nation, allez, levez-vous, ne soyez pas fainéants, une bonne bière, des brochettes de viande vous attendent ». Ils encourageaient, puis la musique continuait. L'un des animateurs vedettes, Katano, allait sur les barrières, là où on tuait les gens, avec les cadavres entassés.
Alors, ils faisaient des émissions en direct à partir des lieux de massacre, à partir des barrières ?
Où se passaient les massacres. Alors, vous en avez tué combien ? Et bravo, et voilà. On est à telle barrière, ils sont plus courageux que ceux de telle autre barrière qui n'en sont pas à autant de cadavres. Avec beaucoup d'humour, toujours. C'est-à-dire vraiment, comme dit quelqu'un, c'était commettre le génocide en chantant. Cette radio était là, avec cette ambiance toujours joyeuse, avec des hurrahs pour telle barrière où on a tué depuis ce matin autant de gens, etc.
J'ai même entendu dire que les combattants du FPR, les combattants d'en face, écoutez la radio pour au moins en écouter la musique.
Ils n'appréciaient pas le contenu, mais ils appréciaient le fait musical. Mais pour tout le monde, j'ai eu aussi des jeunes militaires du FPR que j'ai interviewés, mais bon, off, et qui me disaient, dans, ce contexte où on était entouré de cadavres partout, où on passait, des cadavres par centaines, ça faisait du bien d'entendre de la musique. C'était, il disait, c'était schizophrénique. On savait que cette musique qu'on attendait venait de la radio, qui encourageait les tueurs, qui indiquait où se cachaient les gens, mais en même temps, c'était une petite respect.
Alors que le rôle de la radio était fondamental auprès des populations génocidaires, la radio n'a jamais été une cible pour les combattants du FPR.
Le 17 avril, le FPR a réussi à bombarder le local de la radio-télévision des Mille Collines. La radio a déménagé, mais on ne sait pas où. Et elle a continué à émettre. Donc, elle a dû déménager peut-être dans l'une des maisons d'indignitaires du régime. Je ne me souviens plus où elle a déménagé. Et quand Kigali est tombé le 4 juillet, la radio est partie avec le régime à Goma, au Congo, à la République démocratique du Congo.
Alors, que sont devenus les responsables et les animateurs de la radio ?
Alors, bon, le financier, donc, il a été arrêté après 25 ans de cavale en 2020 en France. Le directeur Ferdinand Naïmana a été arrêté, traduit à Arusha au tribunal pénal international. Il purge sa peine. Et parmi les animateurs, on ne peut pas les citer tous, mais moi, je retiens trois. D'abord, une femme. Valérie Bemeriki, qui avait un temps d'antenne considérable. Elle était d'une agressivité, quand vous écoutez les cassettes de l'époque, elle était incroyable d'agressivité, de cynisme. Et je me souviens que dans la nuit du 6 au 7 avril, toute la journée du 7 avril, au même moment où on tuait les Tutsis, les sbires du régime, on tuait aussi les membres de l'opposition, dont la première ministre, Agathe Uwiringiyimana, qui était issu de l'opposition. C'était en vertu des accords où il y avait un gouvernement d'union nationale. Et cette Valérie, à l'antenne, était là en disant « Oh, mes chers amis, est-ce que vous sauriez où sont passés les gens de l'opposition du gouvernement ?» Ils se tairent, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle savait qu'ils étaient morts. Et elle se moquait d'eux en disant qu'ils se tairent comme des lapins. C'était un peu ce genre de femme. Mais après la chute de Kigali, elle a réussi à partir avec le gouvernement jusqu'à la République démocratique du Congo, mais elle a été rattrapée par la nouvelle armée rwandaise en 1999. Elle a été arrêtée au Congo, elle était réfugiée, mais elle a été condamnée à perpétuité.
Elle est en prison à Arusha ?
Non, là c'est le gouvernement rwandais. Elle est dans les prisons rwandaises. C'est ça quand même qui est incroyable de se dire qu'une journaliste de radio a mené une action qui l'a fait classer parmi les planificateurs, organisateurs, superviseurs et dirigeants du déroulement du génocide. Parce qu'il y a des génocidaires qui ont été jugés parce qu'ils ont exécuté. Elle a été jugée comme quelqu'un qui était parmi les planificateurs, etc.
Elle est considérée comme faisant partie du cerveau du génocide.
Du cerveau du génocide, de ce qui était le cas. L'autre qu'il faudrait citer, parce que ça c'est quand même un peu étrange, c'est Georges Rugiou. C'est un Belge d'origine italienne. Il avait rencontré des étudiants auto-extrémistes à l'université de Liège. Et quand on a créé la radio-télévision des Mille Collines, il a été invité à y participer. Et très vite, il a accepté le poste d'animateur en français. Parce que la radio, j'ai oublié de le rappeler, était en français et en Kinyarwanda, la langue nationale du pays. Et il était extrêmement violent, des diatribes. En plus, il était auréolé du fait qu'il était belge, il était blanc, il avait des références historiques pour expliquer que les Tutsis, c'était une race dégénérée, c'était des cafards. Tout le monde appelait les Tutsis des cafards. Il reprenait la terminologie nazie. Et lui, vraiment, c'était ça, en français. Tous les jours que le bon Dieu faisait, il était là avec son discours anti-Tutsi et anti-Belge aussi, qu'il accusait d'être le complice des cafards, donc des Tutsi. Lui aussi s'est enfui quand Kigali est tombé. Il a été attrapé par les enquêteurs du tribunal pénal international au Kenya, dans la ville de Mombasa, en 1997. Et quand il a été amené à Tanzanie, au tribunal pénal international, il a reconnu tout. Et apparemment, c'était des circonstances atténuantes. Il a été condamné seulement à 12 ans de réclusion criminelle.
12 ans seulement ?
12 ans seulement, ouais. Et les 17 derniers mois, il a même pu les purger en Italie, qu'il avait la double nationalité. Et c'est seulement en 2011 qu'il est rentré chez lui en Belgique. Et le dernier dont je voudrais parler, parce qu'il y avait une dizaine d'animateurs, hein, c'est un certain Noël Itimana. Lui, c'était un ancien de la Radio Nationale. Et Francis, mais est-ce que vous étiez à Radio France Internationale quand il est passé? Il y a eu un groupe de journalistes de la Radio Nationale. Vous vous rappelez, Radio France Internationale formait des journalistes des radios nationales africaines. Et il est venu dans ce groupe-là. Et il était passé au service Afrique et il avait demandé à me voir. Il dit, oui, nous savons qu'il y a quelqu'un d'origine rwandaise ici. Il m'était tombé dans les bras, tout content. Puis après, il est retourné chez lui, excellent journaliste, excellent animateur, avec des galons. Mais apparemment, il était un peu alcoolique. Et un jour, il a insulté en direct un dignitaire du régime. À la Radio Nationale. Donc, il a été licencié, mais quand la radio-télévision des Mille Collines a été créée, il a été l'un des tout premiers embauchés, parce que c'était vraiment un excellent journaliste. Même en étant avec eux, je m'en étais rendu compte. Et il va être redoutable d'intelligence, d'humour, de culot. Alors, la haine contre les Tutsis, tout va se déverser. Ils avaient déjà commencé, avant le génocide, de donner des listes, des noms et des adresses des Tutsis qu'ils appelaient les complices du FPR avant le génocide. Et pendant le génocide, il va faire la même chose. Par exemple, il y avait des habitudes de saluer des villes. Lui, il saluait des quartiers où il fallait aller tuer. Et ce journaliste, quand la radio a été bombardée, il a perdu une jambe. Donc, il a cessé de travailler. Il a été arrêté. Il n'a pas pu être évacué avec le gouvernement génocidaire en République démocratique du Congo, comme tout le monde. Donc, il a été arrêté à Kigali. Et juillet 94, après la chute de Kigali, je l'ai retrouvé dans la prison centrale de Kigali. Et il m'a dit cette phrase que je n'oublie pas, parce qu'il m'a reconnu, il était tout content. Il m'a demandé que je lui achète du coca, du saucisson. Il m'a dit qu'il avait mangé du saucisson en France, il avait apprécié. Et il m'a demandé des tas de choses qu'il fallait lui acheter, alors que quand même, il était condamné à perpétuité. Mais ce qui m'a étonné, lui, il m'a dit, c'est vraiment l'une des rares personnes que j'ai entendu dire « je regrette », mais il ne regrette pas. Pour entendre la différence, il m'a dit « je regrette ce que j'ai fait parce que c'était pour rien ». Je lui ai dit « mais alors pourquoi tu l'as fait ?» Il regrette l'échec. Il regrettait l'échec. Il m'a dit « je ne peux pas regretter les initiatives que je prenais ». Il m'a dit « qu'est-ce que tu veux ?» Un journaliste, c'est un militaire comme un autre. Un militaire, quand tu lui dis « tire », il tire, un journaliste, son fusil c'est le micro, quand on lui dit « tu parles », il parle. Ça me fait penser à une certaine télévision en France.
On peut aussi penser à l'attitude du journaliste américain en 2003 quand M. Bush a voulu envahir l'Irak et liquider Saddam Hussein.
Oui, voilà. Donc il m'a dit, les militaires nous déposaient des communiqués à lire. Eh bien, je lisais des communiqués et j'y mettais de l'humour, bien sûr, pour que ça passe mieux et pour que les gens écoutent. Puis je demandais de la bonne musique pour accompagner ça. Mon rôle, ce n'était pas de faire de la politique. Je dis, ah bon, là, tu ne faisais pas de la politique. Je me dis, non, je faisais mon devoir.
Madeleine, on te remercie pour tous ces éclairages ô combien précis et précieux sur les sombres actions de la radio des Mille Collines. Ces voix de la haine ont sévi de 1993 à juillet 1994 comme une arme appelant et encourageant au massacre de près d'un million de Tutsis et Hutus modérés dans ce qui fut le dernier génocide du XXe siècle.
C'est moi qui vous remercie.